Alors bonjour, nous avons le plaisir de présenter ici notre dernier ouvrage, La vie d'une œuvre, aux éditions Trinôme, et nous remercions la librairie Mola pour son accueil. Alors nous, c'est-à-dire déjà les deux co-auteurs, Guillaume Toumagnan, qui est artiste, qui est peintre, j'ai l'habitude de dire plutôt même bon peintre, il ne sait pas, hein, que... et qui nous offre dans cet ouvrage ses œuvres en de magnifiques, vraiment magnifiques reproductions. Et moi-même, Cécile Cross, donc maître de conférence HDR à l'Université Bordeaux-Montaigne en esthétique et sciences de l'art. Alors, ce livre, nous en sommes co-auteurs, Guillaume pour les peintures et moi pour le texte, pour le dire vite, en fait. Car en fait, nous avons fait chacun un peu plus, en vérité, dans cette création d'ouvrage. Et, en vérité, nous sommes un peu plus que deux à avoir contribué à cette création. Donc, c'est pour le dire très vite. Hein. Un peu plus que deux, c'est-à-dire, je ne citerai pas tout le monde, mais Didier Arnaudet, critique d'art, qui lui a écrit à cet ouvrage, La vie d'une œuvre, une préface. Alain Mouex, collectionneur, qui y a donné, il s'est prêté au jeu de l'interview. Clément Chatin, aux éditions Trinôme, qui a permis sa mise au monde de ce livre en sa direction éditoriale. Les graphistes, Rémi Alban Valton et Daniel Norgaard, qui en ont fait le design. Kerstin Birch, qui en a assuré la traduction, et beaucoup d'autres qui sont remerciés dans le colophon. Et nous accueillons, effectivement, aujourd'hui, nous avons ce plaisir pour notre présentation, Alain Mouex, que je viens de citer, et qui vous parlera peut-être tout à l'heure. Alors, bon, rien d'extraordinaire, me diriez-vous, enfin peut-être Cécile le veut, rien d'extraordinaire, me diriez-vous, il s'agit là de l'ordinaire... création d'un livre, de sa conception à sa diffusion, en passant par l'édition. Il s'agit là de la vie d'un livre, finalement, de sa naissance à son partage. Sauf que, ici, ce livre, justement, parle de la vie d'une œuvre, celle d'une peinture, celle de Guillaume Toumagnan. Alors, on pourrait penser que Guillaume Toumagnan, artiste, bénéficie ici de la reproduction de ses œuvres. Et que moi-même, j'écris un texte théorique sur l'œuvre. En tout cas, on pourrait s'attendre à cela. Pour ceux qui n'ont pas eu la rapidité, comme certains j'ai vu tout à l'heure, de déjà acquérir le livre, vous pourriez vous attendre à cela. Or, pas du tout, en fait. C'est pas du tout cela. Notre livre, La vie d'une œuvre, n'est pas un catalogue. Ce n'est pas un catalogue sur l'œuvre de Guillaume Toumagnan. La vie d'une œuvre n'est pas non plus un écrit théorique, disons universitaire, au sens strict, triste, étroit, straight. C'est un livre qui converge sur un thème. Hein, ce thème, vous l'avez, c'est la vie d'une œuvre, comme une histoire, comme une rêverie. Ça pourrait... être un roman, ben non, en fait, ce n'est pas non plus un roman. Ce n'est pas non plus un roman et ce n'est pas non plus un recueil de poésie. Je dirais quoique. Parce que, en fait, à y réfléchir, quand j'ai écrit ces quelques notes hein, pour vous parler, eh ben, je me suis dit, la forme la plus proche peut-être de ce livre que nous avons produit ensemble, ce serait peut-être, et je crois que ça, là, ça fait plaisir à notre éditeur préféré, Clément Chatin, un recueil de poésie. Peut-être parce que ce n'est pas exactement cela. Il est, ce livre, une rencontre de plusieurs, non pas plusieurs points de vue, mais plusieurs points d'accroche à l'œuvre, d'amour de l'œuvre, de questionnement sur ce qu'elle nous fait, cette œuvre. En fait, je me suis dit, c'est un livre amoureux. C'est un livre amoureux et destiné à tous les amoureux de l'art. Un livre amoureux pour le critique d'art, d'œuvres de Guillaume Toumagnan, Didier Arnaudet, qui interroge ce regard à l'œuvre, qui le déplace et lui laisse un insistant sentiment de déjà-vu, lorsque quelque chose du visible se retire, s'efface, se dissout, dans une œuvre je le cite, « au bord du visible ». Un livre amoureux pour l'esthéticien que je suis, pour ne pas le mettre au féminin, tentant de retisser les fils d'une histoire qui lui échappe, qui lui a échappé depuis le premier moment de la rencontre avec l'œuvre, de ce qu'elle peut lui révéler du monde, de ce qu'elle peut lui ou nous dessiller, de ce qu'elle appelle ensuite au partage en direction de l'autre, c'est-à-dire qui engage à l'écriture ou qui engage là, ici, maintenant, à la parole. La réception de l'œuvre apparaît alors comme une création continuée en celui qui la reçoit. Un lien amoureux au collectionneur, Alain Mouex, que je suis allée voir au Château Fonroc et qui m'a montré l'œuvre qui a trouvé sa place dans le Chai, bord de route, expliquer combien l'œuvre de Guillaume Toumagnon l'a touché, le touche encore, me semble-t-il, il nous le dira peut-être, lui fait écho dans sa propre philosophie de la vie et du vin. C'est un livre amoureux et non pas un catalogue ni un écrit théorique dur, car, il y a un car, il ne part pas de nous, mais d'une œuvre. L'origine de ce livre n'est aucunement préméditée et n'a rien de forcé. J'insiste parce que il me semble que c'est quand même assez rare. J'ai envie de la montrer, cette œuvre, du coup, que vous avez en vitrine, en reproduction. Elle commence avec ma rencontre de reflets dans une exposition au Jardin botanique de Bordeaux il y a quelques années, puis d'un texte que j'ai écrit spontanément, vraiment spontanément, sans arrière-pensée, je vous assure, à partir de cette œuvre. À cause d'elle, il faudrait dire peut-être grâce à elle, et puis finalement non, il faudrait dire à cause d'elle. À cause d'elle, à cause de trop de débordements de cette vie de l'œuvre qui se continuait en mon regard. Alors, qu'est-ce que rencontrer une œuvre et que devient la rencontre? On la remarque, cette œuvre, parmi les autres, toutes les autres de l'exposition. On lui accorde une préférence. C'est un peu l'élu. Hein. Pourquoi? On s'en éloigne. On essaie de lui tourner le dos. Puis on y revient. Et puis, on hésite. Et puis, on essaie de l'oublier. Et puis, on y revient encore. Ben, on dirait une histoire d'amour. Et une énigme en même temps. Qu'est-ce qui fait que l'on aime? Et comment cela nous transforme-t-il? D'où l'importance de la part de l'œuvre, c'est-à-dire que la moitié de l'ouvrage est consacrée aux reproductions des œuvres de Guillaume Toumagnon. Donc c'est ce texte que j'avais écrit, donc, dont Guillaume Toumagnon a voulu faire le cœur de l'ouvrage. Puis vinrent s'y associer d'autres œuvres, d'autres voix, un éditeur, des designers. Rémi, justement, a communiqué quelques lignes, donc Guillaume va se faire le porte-voix, porte-pensée de Rémi.
Oui, alors Rémi Valton, donc le jeune designer qui a réalisé cet ouvrage, juste pour l'anecdote, c'est aussi intéressant parce que c'est l'histoire de ce projet aussi. On a dit, Cécile l'a expliqué, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de personnes. Là, en l'occurrence, Rémi Valton, c'est un étudiant que j'ai eu il y a une dizaine d'années et qui a eu un beau parcours puisqu'il... Il vient de terminer ses études en master Royal College of Art à Londres. Donc, c'est un sacré parcours. Et le parti pris de ce projet, comme vous pouvez le voir du point de vue de l'édition, c'est très, très contemporain. C'est des vrais choix de designer. C'est des vrais choix aussi de mise en page. Bon, les puristes apprécieront. Et c'est aussi ce qui nous plaisait, dans ce projet. Et Clément Chatin, l'éditeur d'ailleurs, nous a laissé faire là-dessus, ce qui est assez rare pour le souligner. On a eu la possibilité de porter ce projet du début à la fin, et ça c'est intéressant. Alors je vous lis juste les quelques mots que m'a envoyé Rémi, puisqu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, bien sûr. Pour lui, son design reflète un processus créatif, le processus créatif donc, de la peinture contemporaine, parce que c'est un vrai questionnement sur finalement, qu'est-ce que la peinture contemporaine ? Moi, j'aime pas trop dire ça, contemporain. Bon, on vit avec son temps, on est contemporain de son époque, voilà. Bon. Mais en tout cas, s'inscrire dans un design qui correspond à la peinture dite contemporaine. Bon. Donc, cette relation, processus créatif de la peinture contemporaine, de l'artiste, par le biais donc, du langage, pardon, et de l'image. Langage et image, bon, c'est ce que vient de dire Cécile Cross, c'est-à-dire le rapport évident, là aussi le parti pris de cet ouvrage, c'est-à-dire la part du texte et la part d'image, en tout cas une sélection de peintures pensée aussi dans ce livre comme un accrochage finalement. Et donc c'est ces deux parties qui reflètent tout simplement, donc d'où aussi... Il avait très très vite compris le terme et ce qu'on entendait par reflet. Il y a cette notion de diptyque aussi qui est présente dans cet ouvrage. Voilà, donc ça c'est pour vous éclairer un petit peu plus sur l'approche esthétique et le design qui peut paraître assez radical, assez surprenant. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Un livre finalement sans couverture, sans image. Première page, bon, c'est là aussi c'est un vrai parti pris et une double page, une double couverture et la quatrième de couve, donc la dernière page, on finit par une photo d'atelier qui a été prise par Gaël Amalian-Testu d'ailleurs, hein, cette photo dans l'atelier qui conclut donc l'ouvrage. Voilà, bon, ça c'est pour la partie design. Ça méritait, je pense, une explication. Okay. Voilà.
Et ce qui est extraordinaire, si je puis me permettre de préciser, c'est justement, enfin, ce que tu as déjà dit aussi un peu, c'est la sobriété du livre. Il est extrêmement sobre. C'est un ouvrage d'art avec un très beau papier, donc des reproductions très, très soignées, pour lesquelles Guillaume a fait très attention à ce que ça reflète bien, que ça rende bien les couleurs de ses œuvres. Et donc, c'est vrai qu'on a un type de présentation assez actuel, donc qui peut surprendre un peu, hein, par justement ce côté sobre. Mais voilà, c'était notre choix, hein, c'est notre choix affirmé, ouais. Pas dans la fioriture, pas dans l'extravagance, mais bien au contraire, quelque chose qui laisse place peut-être à, on disait tout à l'heure, la rêverie ou la méditation ou le fait de pouvoir aussi laisser respirer les œuvres dans les pages. Il y a une grande respiration, il y a beaucoup de vide, de blanc dans ce papier qui n'est pas complètement blanc d'ailleurs, mais qui permettent la respiration de l'ensemble.
Juste une précision, donc nous avons tenu, et surtout l'éditeur Clément Chatin, à ce que le projet se fasse, que le livre puisse être imprimé donc, en France, voilà, chez... Imprimerie Lusso, donc spécialisée dans les ouvrages d'art. Donc ça aussi, c'était là aussi une vraie rencontre avec ces gens-là. Bon, en termes de design, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais c'est important de souligner quand même la complexité, voilà, du façonnage de ce type d'ouvrage. Bon. Pas épiloguer là-dessus. Mais...
Alors, on va revenir à l'amour, si vous voulez bien. Donc, ce livre amoureux, dont, disais-je, l'origine est une œuvre rencontrée, eh bien, tout ça, c'est bien. On a dit livre amoureux pour le critique d'art, livre amoureux pour l'esthéticien, livre amoureux pour le collectionneur. Mais quelle est la place de l'artiste ? Qu'a-t-il cherché là, l'artiste, dans ce livre ? Alors, je me tourne vers Guillaume. Et je lui dis, pourquoi, Guillaume, la vie d'une œuvre, de ton point de vue ?
Alors moi, c'est simple. C'est ce projet, donc Cécile vous l'a expliqué, c'est quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, évidemment, c'est beaucoup plus qu'un catalogue. C'est un vrai engagement. Bon, déjà, c'est très bien écrit. Et tout de suite, on voulait aller plus loin, on voulait faire ce livre. Bon, moi, ça me renvoie tout de suite, ça m'a envoyé tout de suite... je crois que ce qui m'anime aussi dans la peinture, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Ça veut dire que Le rapport à la vie d'une œuvre, c'est aussi de l'ordre du fantasme pour un peintre. Ça veut dire, pour un artiste en général, mais là je parle d'un peintre puisque je suis un peintre. Bon. Le fantasme du peintre, c'est cette question essentielle qui prolonge finalement l'acte de peindre. Que devient l'œuvre d'art du moment où elle sort de l'atelier? C'est ce questionnement qui résonne en moi depuis que je suis jeune, très jeune, et depuis que je fais ce métier aussi de manière très professionnelle. C'est donc une question d'habitude, mais on s'y habitue finalement pas toujours. Et donc c'est en quelque sorte, quand on est peintre, c'est faire son art, faire ce qu'on aime, et c'est aussi donner vie à quelque chose. On parle d'une naissance, on parle d'une peinture. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est une forme de nouvelle vie, voilà, et d'accepter aussi à un moment donné d'être dépossédé, parce que c'est le jeu entre guillemets, c'est-à-dire de voir que son travail, son œuvre se poursuit. Bon, et ça c'est le premier sentiment. Ensuite vient très vite la notion de partage dont parle Cécile dans l'ouvrage, c'est-à-dire du moment où on accepte cette relation, on accepte le partage, et donc il y a cette relation qui s'installe. Bon, c'est aussi l'expérience et je dirais les rencontres qui apaisent justement qui apaisent ce sentiment, mais qui nourrit tout autant le fantasme. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et évidemment, je n'invente rien parce que c'est quelque chose qui a toujours intrigué, c'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreux textes, d'ouvrages. Alors on pense tout de suite, enfin moi j'ai envie de vous parler de ça maintenant, mais on pense tout de suite à des histoires de tableaux bien sûr. Et là je pense à la toile de Courbet que tout le monde connaît, ô combien célèbre aujourd'hui, pourtant censurée plus d'un siècle, hein, l'origine du monde. Et finalement on pense à l'œuvre comme une personne. Voilà. Si on pense à l'œuvre comme une personne, comme un personnage peut-être d'un roman. D'ailleurs, c'est le cas du roman de l'origine de Bernard Técèdre. C'est ça, c'est-à-dire c'est le tableau qui devient un personnage, qui nous raconte des histoires. Il lui arrive des aventures à cette œuvre. Donc ça, c'est quand même intéressant de poser son regard là-dessus et son imagination. Et puis pour venir au tableau de Courbet, parce que j'avais envie de vous parler évidemment de ce tableau qui est quand même aujourd'hui très qui fait partie de notre patrimoine, on va dire ça comme ça, mais il faut jamais oublier que ce tableau il a eu plusieurs vies, il a eu plusieurs histoires. Voilà, hein, je rappelle, c'est hein, ce tableau de Courbet qui est passé de la propriété d'un diplomate turc qui s'appelait Khalil Bey, donc qui acheta donc cette œuvre de Courbet comme une image libertine, on va dire ça comme ça, et puis jusqu'à Mantes-la-Jolie dans la maison de campagne de Lacan, psychanalyste Lacan. Bon, et en passant aussi par l'épisode de l'œuvre confisquée par les nazis. Bref, l'histoire d'une œuvre d'art. Évidemment, ça c'est quand on est peintre, quand on est artiste, qu'on pense à tout ça. Oui, ça nourrit notre imaginaire. Oui, c'est fascinant. Moi, je me pose toujours ce genre de questions parce qu'un tableau est unique, parce qu'une œuvre est unique, qu'il n'y a pas forcément, même s'il y a un processus, il n'y a pas de procédé particulier, c'est-à-dire une sorte de mécanisme où l'œuvre se ressemble. Non, pour moi, chaque tableau est différent, qu'il soit petit, grand. Voilà, donc ça, c'est des particularités qui sont propres à la relation aussi qu'on entretient à la peinture. En l'occurrence, dans mon cas personnel, c'est de cet ordre-là. Je poursuis ? Ouais. Juste, je vous ai parlé de ce tableau que vous connaissez tous, donc de Courbet, mais je voulais vous raconter une anecdote rapide, une autre histoire de tableau qui m'a fasciné il y a à peu près une dizaine d'années. Une toile, en fait, que j'ai rencontrée par hasard, qui dormait sous le lit quoi, c'est un personnage ou une histoire, mais qui dormait sous un lit depuis des mois, des années, on ne sait pas en fait. Une toile de Fautrier, de Jean Fautrier, des années de 1926. Une toile intitulée Fernande, un petit tableau de 41 cm sur 33, un portrait. Et ce tableau, en fait, il dormait sous le lit de ma tante, sur la Côte d'Azur, là où elle habite. Donc, cette tante avait été infirmière psychiatrique et elle s'est occupée d'une vieille dame en fin de vie. Et cette dame avait été une des maîtresses de Fautrier, donc très volage, paraît-il. Et donc, il y a plusieurs... plusieurs versions, on va dire ça comme ça. Et moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai su qu'elle avait cette toile et qu'elle voulait me demander ce que c'était, ce que ça valait aussi, hein, c'était un peu ça l'idée, j'ai tout de suite dit, tu sais que c'est quand même pas rien. C'est Fautrier fait partie vraiment des artistes importants, évidemment, surtout des années post-50, mais là, en l'occurrence, c'est une œuvre plutôt d'entre-deux-guerres et recherchée également. Et donc, moi, j'ai entretenu une correspondance comme ça avec un conservateur qui pour moi, est un détective. C'est-à-dire, lui, il est remonté, il avait accès à toutes les archives, il est remonté à l'origine de ce tableau. Et donc, forcément, ça fait parler, ça fait... et donc, on a connu un petit peu l'origine, comment ce tableau est arrivé, etc. Bon. Et c'est un voyage aussi fabuleux, en tout cas pour moi, pour l'artiste que je suis, c'est-à-dire aussi un voyage dans le Paris d'entre-deux-guerres, parce qu'on est en 1926, et il va se passer beaucoup de choses. Et donc ça, c'est formidable. Et c'est une histoire de tableau parmi tant d'autres. Donc, quand ça nous touche, et quand, évidemment, on fait partie de ce milieu, on s'y intéresse, on pense à Fautrier, on pense à Courbet, en leur temps, on pense à tous ces artistes. Évidemment, moi, j'ai pas cette prétention de me dire je me compare pas à Courbet, c'est pas ce que je dis. C'est juste que je me dis que mes tableaux circulent aussi, vivent ailleurs et vivent bien, parfois très bien. Alors il y a des tableaux que je ne sais plus vraiment où ils sont, mais la plupart je sais quand même depuis quelques années. Et je considère aussi que c'est parfois, très souvent même, un privilège, c'est-à-dire de savoir où est son tableau. Voilà. Et c'est le cas, cette possibilité de voir et de revoir une œuvre, et c'est le cas avec Alain Mouex au Château Fonroc, puisque je connais cette destination, enfin j'ai connu très vite la destination, car Alain me l'a dévoilée, et puis j'ai eu la chance de l'avoir installée et de la revoir, et donc l'œuvre finalement se poursuit, et en ce qui me concerne, j'entretiens du coup une relation, on va dire, épisodique, mais je sais que Alain accepte tout à fait que je puisse aller voir le tableau, revoir le tableau, et ça, c'est, je considère que c'est un privilège. Voilà, je voulais terminer là-dessus, et peut-être...
Donc, effectivement, Guillaume, tu nous racontes un trajet, quelques histoires de trajets réels, concrets de l'œuvre, qui font partie aussi du fantasme, je reprends tes termes, de l'artiste, de son imaginaire. Ceci dit, on ne connaît pas toujours la destination des tableaux, d'une part, ou des fois on la connaît, mais on ne peut pas les revoir. Et puis il y a d'autres trajets dans ce devenir de l'œuvre, c'est le trajet sensible. C'est le trajet psychique, on pourrait dire même, que l'œuvre engage avec ceux qui la reçoivent, ou celui ou celle qui la reçoit. Donc, dans ce livre, effectivement, nous parlons de cette réception de l'œuvre, c'est une question qui, au final, est une question d'esthétique, c'est-à-dire la réception sensible de l'œuvre, voire l'indicible du sensible, peut-être aussi une réception sensorielle en nos différents sens éveillés, peut-être une réception émotionnelle, voire amoureuse. Et plus exactement que d'esthétique, nous parlons dans notre livre, il me semble, de création continuée chez le spectateur. Donc c'est un autre devenir de l'œuvre, finalement, que le devenir matériel, hein, physique, son trajet. Hein, c'est tout est trajet de l'œuvre, mais la vie de l'œuvre, c'est quand elle échappe à l'artiste, hein, quand elle a une vie prolongée par-delà l'artiste, et qu'elle touche d'autres personnes et participe de leur vie. Ça, c'est pour le dire de façon générale, à la fois de façon finalement matérielle ou non. Alors attention, il n'y a pas de voie directe entre la création par l'artiste et la création continuée chez le spectateur. C'est-à-dire que ce serait une erreur et même un écueil que de penser pouvoir trouver ce que l'artiste a voulu transmettre en l'œuvre chez le spectateur. Ce serait une erreur aussi que de penser que le spectateur reçoit un message ou un sentiment de l'artiste parce que chacun ressortit de deux processus différents. L'artiste, la création, et le spectateur, la réception esthétique, qui est cependant active. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit passivement. Elle est pourtant active. Parce qu'entre les deux, il y a l'œuvre. Et c'est elle, cette œuvre, qui opère cette création continuée dans et avec le spectateur. Donc, entre la création par l'artiste et la création continuée chez le spectateur, il y a un décalage. Et dans ce décalage, il y a l'œuvre. Finalement, comme pour ce livre, pour nous, tout part de l'œuvre. Tout part de l'œuvre. Alors, qu'en pense le collectionneur ? Qu'en pense le collectionneur qui peut-être est dans une position intermédiaire entre ce que nous venons de dire, c'est-à-dire entre un devenir physique de l'œuvre, en tout cas en ce qui concerne Bordeaux-Route à Fonroc, et de la réception aussi sensible de l'œuvre. Donc, Alain Mouex, j'aurais envie de te poser une double question. Quel est ton rapport, très sympathique, la question très large, quel est ton rapport à l'œuvre de Guillaume Toumagnan? Deuxième partie de la question, en fonction de ce que tu es, de ta philosophie de la nature et du vin.
Ah oui, effectivement, ce sont deux choses assez différentes. Alors, la difficulté pour répondre à cette question, c'est de ne pas vous dire ce qui est déjà dans le livre, parce que sinon, il n'y a plus de raison d'aller lire ce qui est dans le livre, donc je vais essayer de ne pas faire ça, voilà, quand même, une grosse partie de la réponse se trouve dans l'interview à laquelle je me suis agréablement prêté, d'ailleurs. Juste quand même pour resituer un petit peu les choses, pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que un jour, lors d'une exposition qui avait lieu à Bordeaux, qui s'appelait Natura Naturata, j'ai découvert un tableau qui s'appelle Bordeaux-Route, qui est un diptyque d'1,50 m par 3,50 m, que vous trouverez dans le livre, et en page 74. Et quand j'ai lu cette œuvre, j'ai tout de suite pensé qu'elle avait une place qui était faite pour elle, à savoir le chai à barrique du château Fonroc. Alors bon, je vais vous expliquer un petit peu les liens que je fais entre mon métier de vigneron et la pratique artistique. Après, plus spécifiquement, pourquoi ce tableau dans ce chai ? Je vous disais, c'est ce qu'il y a dans le livre, donc je vous laisserai découvrir. Il y a des tas d'aspects qui sont pris en compte. En tout cas, quand j'ai voulu acheter cette œuvre, il a d'abord fallu que je trouve qui était l'artiste, parce que je ne connaissais pas Guillaume. Donc j'ai mené ma petite enquête, et j'ai très vite, grâce à toi d'ailleurs, remonté la piste. Et voilà, et je vais donc prendre contact avec Guillaume. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai voulu lui montrer l'endroit où le tableau allait être mis en place. On l'a accroché ensemble, etc. Et il est évidemment bienvenu aussi souvent qu'il le souhaite pour voir ce tableau. Bon, moi, j'ai la chance de le voir très régulièrement. Ça a pour conséquence de me faire aimer encore plus l'œuvre de Guillaume. Et ensuite, j'ai un peu continué. Donc, je rencontre des œuvres de Guillaume, pas seulement dans mon chai à barrique, mais aussi dans ma chambre, dans mon salon. Enfin bon, bref, Guillaume est très présent dans ma vie à travers sa peinture. Voilà. Essayer de parler un petit peu du lien entre mon métier de vigneron tel que je le pratique, puisque je suis viticulteur en biodynamie et que ce n'est pas tout à fait pareil que d'être un viticulteur en conventionnel, du moins je le pense, et le métier d'artiste. Très tôt, je me suis intéressé aux arts, en particulier avec une sensibilité par rapport à la peinture et à l'opéra. Et puis, au fil des années, ma foi, j'ai eu la chance de petit à petit de constituer une collection qui est loin d'être terminée dans sa dimension, enfin, en tout cas j'espère, et qui me permet aujourd'hui d'avoir la chance de vivre avec un certain nombre d'œuvres dont l'énergie, la beauté, le mystère et tout le reste enrichissent ma vie un petit peu tous les jours. Et dans la mesure du possible, j'aime bien quand, lors de ces acquisitions, si ce n'est pas toujours possible, mais quand je peux, j'aime bien effectivement rencontrer l'artiste. J'aime bien, si possible, que l'artiste puisse même venir chez moi découvrir son œuvre, dans quel environnement elle est, regarder comment elle fonctionne par rapport aux autres. C'est toujours, je crois, instructif pour un artiste. Et puis moi, j'aime bien savoir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière cette œuvre. Et, bon, C'est, je crois, un aspect important et enrichissant, et ça participe à au plaisir de la collection de pouvoir ensuite rencontrer des artistes qui ont produit. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu à peu, comme ça, conçu une sorte de filiation naturelle entre ma pratique de vigneron et l'engagement artistique. En fait, quand je regarde les artistes vivre, et mon épouse est artiste, donc je côtoie aussi un artiste qui n'est pas plasticien, qui est un artiste des arts vivants, mais artiste tout de même. Quand je regarde les artistes, elle et tous les autres qui autour dans leur manière de vivre, que je vois la manière dont ils combinent à la fois une expertise technique, une capacité à recevoir, à se mettre en creux pour recevoir. Quand je vois toutes les émergences sensibles, la patience dont ils font preuve, le travail, les heures très importantes de travail, etc. Mais je me plais à trouver une ressemblance avec la manière dont je travaille aussi. J'ai choisi la viticulture en biodynamie parce qu'elle est basée sur une observation fine de la nature dans toutes ses dimensions, y compris énergétique et rythmique. Et aussi parce qu'il existe dans cette pratique une possibilité de mimétisme par rapport à une expertise à laquelle aucun homme raisonnable ne peut vraiment essayer de concurrencer, à savoir l'expertise de la nature. J'ai envie de dire, toutes les réponses sont dans la nature, en tout cas dans mon métier. Et il se trouve que m'affranchir de l'illusion d'une maîtrise du vivant représentait pour moi une tentation qui m'a vraiment amené vers la biodynamie. J'avais fait des études d'ingénieur agricole et d'œnologue, où on m'avait dit que je savais. Et bon, voilà, un jour, j'ai découvert que j'avais tout à apprendre. Et c'est à partir de là que mon métier de vigneron a commencé à être intéressant. Il a fallu désapprendre d'abord pour réapprendre. Mais bon, ça m'a pris 10 ans, c'était bien. En tout cas, l'idée que mes compétences techniques, scientifiques et empiriques puissent être gouvernées par la reconnaissance de leurs limites et accepter le cadeau de ce qui s'offrait très généreusement à l'observation me semblait être l'attitude à la fois la plus sûre pour accomplir un geste juste et surtout en conscience, parce que je pense qu'il est important, et de plus en plus d'ailleurs, de faire des gestes de conscience. N'oubliez pas cela en fin de semaine. Bref. En tout cas, c'est un autre sujet. Et c'est dans ce faisceau de sources intuitives, techniques et sensibles que j'ai l'impression de partager un territoire avec ce que sont les artistes. Alors, je reste à ma juste place. Je ne connais rien, en fait, de ce qu'est la création artistique, puisque je ne suis pas moi-même artiste. Mais je suis solidaire de leur rapport au monde et de la manière dont ils s'expriment avec sincérité. Et moi, je me contente, ma foi, de cette petite gémilité sonore entre culture et culture. Je m'occupe de la culture de la vigne. Et c'est ainsi qu'au château Fonroc, eh bien, ma foi, il y a des sculpteurs, peintres, réalisateurs, photographes, conteurs, musiciens qui ont pu, à un moment ou à un autre, de manière ponctuelle, venir s'exprimer dans ce lieu. Et pour moi, c'est très important que cette dimension-là puisse continuer sur les propriétés dont je m'occupe. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai choisi la viticulture en biodynamie. Je vais en parler un petit peu. C'est une recherche d'harmonie, on pourra en parler pendant des heures, et donc je ne vais pas vous définir la biodynamie, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement dire que c'est une recherche d'harmonie entre un sol, des personnes qui travaillent et une plante, chacun étant un élément essentiel à l'ensemble. Et c'est basé principalement sur une observation. Une observation de manière à comprendre où la nature veut aller pour ensuite l'accompagner. L'agriculture conventionnelle est une agriculture de domination, où on essaie de faire aller la nature là où on veut qu'elle aille. C'est voué forcément, à mon avis, à l'échec, parce que la nature n'ira pas là où on veut qu'elle aille, pour une raison bien simple, c'est que c'est nous qui avons besoin d'elle et pas elle qui a besoin de nous. Donc une fois qu'on a remis les choses à leur juste place, on regarde tout ça différemment et on comprend qu'on peut accompagner au lieu de vouloir dominer, avec en biodynamie une approche très holistique. On prend en compte vraiment tout l'environnement, aussi proche et aussi lointain qu'il puisse être, chacun des éléments étant certes des détails, mais c'est la somme des détails qui, à la fin, fait qu'on arrive à éventuellement créer un environnement qui est équilibré et donc pérenne, puisqu'il n'y a rien de pérenne qui soit sur des positions de déséquilibre. Voilà, donc la biodynamie s'intéresse au rythme, à ses énergies, et elle nous apprend en fait que tout acte, toute pensée, toute volonté joue un rôle. Et c'est là que j'en arrive à que je fais un lien avec la peinture de Guillaume qui est dans ce chai à barrique. Tout acte, toute pensée, toute volonté joue un rôle. Je pense que chaque objet a son importance parce que, de sa manière, il rayonne. On peut le voir, ne pas le voir, le croire, ne pas le croire, peu importe. En tout cas, moi, je le sens. Et j'en suis convaincu. Et je pense que ça, comme j'ai, rayonne par sa forme, sa couleur, sa texture, par sa présence, par qui l'a fait, par tout ça. Et je pense que ça participe à amener une harmonie. Alors, pourquoi ce tableau, dans ce chat en particulier, comme je vous l'ai dit, s'est développé? Je vous apporterai simplement un élément important. Je pense qu'en mettant ce tableau dans mon chat à barrique, par l'ouverture qu'il apporte, comme une fenêtre sur un ailleurs, il ne faut pas oublier que le vin est enfermé pendant un an et demi dans une barrique, dans un endroit sombre. En général, quand on n'est pas en train de faire une visite, la lumière est éteinte. Il fait frais et c'est un endroit calme, mais de repos. Le fait d'apporter une ouverture comme ça à travers un tableau est, je crois, important. Et je pense que le fait d'apporter un sens extrême à tous ces détails, à tout ce qui va rentrer dans un chai, que ce soit la musique, que ce soit les objets, etc., participe aussi à ce que mon vin il gagne en quelque chose qui ne se mesure pas, mais qu'on peut qualifier peut-être de beauté. Voilà. En tout cas, c'est mon ambition. Et voilà, donc ce vin-là, on va le goûter tout à l'heure. Ce tableau, je vous invite à venir le découvrir au Château Fonroc quand vous voulez. Il est visible. Et si vous avez lu ça et que vous venez voir, vous comprendrez tout à fait. Ça vous paraîtra évident que ce tableau a sa place dans cet endroit-là.
Alors, voilà. Alain Mouex, tu m'as posé un drôle d'énigme, un drôle de problème. Je me suis demandé à un moment donné, mais vous allez voir, c'est un peu vain tout ça, les questions que je me suis posées. Hein. Je me suis posé la question, mais alors, quel est le rapport entre la réception d'une œuvre, un tableau et l'élevage du vin? Et je me suis dit, mais il n'y a pas de parallèle possible exactement, parce que la nature pour Guillaume Toumagnon, elle n'est pas accompagnée par lui, ni élevée. À la limite, c'est une aspiration et peut-être même intime. Alors je me suis dit, bah, c'est peut-être la création continue en l'artiste qu'on devrait mettre en parallèle avec ton écoute de la nature en tant que viticulteur biodynamiste. Puis je me suis dit, bah, peut-être, mais ce n'est pas du tout sûr. Ce n'est pas du tout sûr qu'il faille tenter de trouver des équivalences parfaites, de vouloir résoudre en équation ces deux processus. Il n'y a pas de parallèle parfait entre création picturale et création de vin, ni entre élevage de vin et création continuée de l'œuvre avec le spectateur. Par contre, il reste quelques-uns de ces indices qui sapent plus nos équations qu'elles ne les résolvent. Et c'est de pouvoir ouvrir au silence par le goût, de goûter l'œuvre ou de goûter le vin. Et donc, moi, si j'avais une invitation à faire, c'est de me taire. Hein. Je vous invite à ce que je me taise pour laisser la place à l'appréciation qui nous égare parfois. Et avec plein d'invitations que nous avons aujourd'hui, invitées à regarder les œuvres exposées par Guillaume Toumagnon, invité par Guillaume, donc, invité à regarder le livre également par Clément Chatin, parce que rien ne remplace finalement le rapport à l'œuvre comme à la dégustation, c'est-à-dire en quelque sorte, nous n'avons pas dit ce qu'il y avait dans le livre, c'est impossible de dire ce qu'il y a dans le livre, puisqu'on ne peut pas remplacer le rapport intime du lecteur avec tous ces silences, avec toute cette appréciation des œuvres et cette écriture du lecteur à ce livre. Donc je vous invite à le goûter aussi.